En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples qu'il est inévitable que des scandales surgissent, des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui cela arrive. Il vaudrait mieux qu'on lui attachât au cou une meule en pierre et qu'on le précipitât à la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches et s'il se repent, pardonne-lui. Mais si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Et le Seigneur répond, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi, va, plante-toi dans la mer, et il vous aurait aussitôt pris. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La méditation. Du pape François. Jésus nous demande de croire que le pardon est la porte qui conduit à la réconciliation. En nous ordonnant de pardonner à nos frères sans aucune réserve, il nous demande de faire quelque chose de totalement radical. Mais aussi, il nous donne la grâce pour le faire, pour le faire réellement. Ce qui, du point de vue humain, semble impossible, irréalisable, voire parfois répugnant, Jésus le rend possible et fructueux par l'infinie puissance de sa croix. La croix du Christ révèle le pouvoir que Dieu possède de résorber toute division, de guérir toute blessure, de rétablir les liens originels de l'amour fraternel. C'est donc le message que je vous laisse. Ayez confiance dans la puissance de la croix du Christ. Accueillez la grâce réconciliatrice dans vos cœurs. Accueillez-la. Et partagez-la avec les autres. Je vous demande de rendre un témoignage convaincant au message de réconciliation du Christ. Dans vos maisons, dans vos communautés et dans tout domaine de la vie du pays. Je suis convaincu que dans un esprit d'amitié et de coopération avec les autres chrétiens et aussi avec les adeptes des autres religions et aussi avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui ont à cœur l'avenir de la société, vous deviendrez le levain
du royaume de Dieu dans cette terre. Si ton frère fait du mal, vraiment. Sciemment, hein, méchamment. Tu lui pardonnes puisque tu es chrétien. C'est un mouvement presque instinctif de ton cœur, puisque ton cœur est chrétien. Si tu pardonnes, tu demandes pas pardon, tu pardonnes dans ton cœur à l'avance, si tu es chrétien. C'est sûr. S'il revient cette fois, parce qu'après que tu lui as pardonné, et que tu as demandé pardon, il recommence en public, tu vois, à faire une chose irréparable. Méchamment et sciemment, tu lui pardonnes, parce que ton cœur est chrétien, c'est instinctif pour un chrétien. Cette fois même, cette fois par jour. Je suis quand même. C'est s'il te demande pardon, hein, s'il vient, et s'il te dit, je me repens, pardonne-moi. Là, pratiquement, je connais pas de chrétien qui, même si c'est sept fois par jour, je connais pas de chrétien qui ne pardonne pas. S'il n'est pas chrétien, c'est pas pareil. Enfin, s'il est chrétien comme ça, juste pour le vernis, mais si on te demande pardon, le prêtre, un pécheur vient, il demande pardon, il lui donne l'absolution. On a l'habitude de ça. C'est passé, j'allais dire, dans la vie. On n'imagine pas, même chez les païens, on n'imagine pas. À cause de Jésus, du christianisme, on n'imagine pas quelqu'un qui vient te demander pardon et à qui tu pardonnes pas. Même chez les païens, c'est passé. La pâte, le levain a fait lever toute la pâte. C'est beau ce que dit le pape François là. Si tu apportes la réconciliation, la miséricorde, le pardon, tu fais ça en communion avec tous les chrétiens, les autres croyants, ceux qui adorent leur Créateur, ceux qui sont de très bonne volonté, ceux qui sont de bonne volonté, l'âme ouverte. Un cœur qui n'est pas mauvais est devenu chrétien aussitôt que un chrétien a pardonné à son frère. Pourquoi ? Parce que tu as la valeur de surabondance, parce que si tu pardonnes à ton frère sept fois par jour, inconditionnellement, c'est que c'est Jésus qui l'a fait à travers toi. Jésus crucifié, Jésus, c'est ça qui est impressionnant, c'est Il est venu pour ça, il est venu pour être immolé, pour réduire de la bouillie, hein. Réduire en bouillie par ceux qui s'acharnent. Encore sur la bouillie, même après sa mort, pour lui porter l'offense suprême, le coup irréparable. On respecte ta mort. Eh bien, c'est pas seulement qu'il pardonne, c'est qu'il demande pardon. Parce que le problème, c'est oui, mais moi je pardonnerai, il n'est pas venu demander pardon. Je pardonnerai bien. Mais il n'est même pas. Fais un geste pour dire je me repens, pardonne-moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Puisqu'il ne s'est pas repenti, il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas dit je me repens, pardonne-moi. Alors Jésus est descendu dans la nature humaine et il a demandé pardon. Il a dit je me repens. Je demande pardon. Il demande pardon. Pardonne-moi. Il dit au Père, pardonne. Et cette parole du Christ en croix sur les demandes de pardon. Et il dit, je me repens. Ça, c'est un miracle, ça. Que le cœur humain puisse dire je me repens et je demande vraiment pardon. Et que on puisse le faire vraiment dans le cœur de quelqu'un qui ne demande pas pardon. C'est là qu'on voit que les sacrements restent encore un petit peu dans la vertu de religion. Et que la vertu de religion est une vertu humaine. Mais il faut la vertu divine pour le fruit du sacrement. Où effectivement, c'est la grâce de Jésus crucifié qui, l'arbre de la croix qui vient se planter dans le cœur de ceux qui demandent pas pardon. Et qui fait que c'est vraiment dans leur cœur que le Père reçoit ce cri, où ils demandent pardon et se repentent. Le point d'orgueil est là tellement jusqu'à la fin, qu'il empêche aux hommes, à certains, de demander pardon, de se repentir. C'est ça. Et c'est là que les apôtres, on voit que les apôtres n'étaient pas si grégaires que ça. Ils n'étaient pas si grégaires que ça, ils étaient très fins. Ils ont bien compris que quand Jésus disait 7 fois par jour, eh bien tu recommenceras, tu pardonneras du fond du cœur. Ils ont bien compris que là, c'était seulement l'Ancien Testament. De faire comme ça. Et que Jésus, lui, faisait plus. Et que pour aller plus loin que ça encore, il fallait la foi. Parce que on dit, je ne vois pas très bien pourquoi. Voilà, Jésus dit, pardonnez 7 fois dans la journée. Et il dit, mais donne-nous la foi. Ils ont bien compris que là, il fallait passer à un ordre d'amour, de miséricorde, de réconciliation, qui puisse donc à l'intérieur de Dieu seul la puissance de pardonner, quoi, et d'atteindre et d'être écouté, entendu, reçu. Alors là, il faut la foi. Nous, on dit, mais pourquoi il dit il faut la foi? Alors lui, il dit il faut pardonner. Et il dit, mais nous, on voudrait que tu nous donnes la foi pour ça. Il faut passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Donc c'est très parlant, quoi, un évangile comme celui-là. Parce qu'il t'indique que dans l'Ancien Testament, déjà, on te demande de pardonner 7 fois par jour à celui qui te fait du mal. Sciemment, volontairement et méchamment. Tu pardonnes s'il te demande pardon, s'il te dit pardonne-moi. Et même s'il recommence, même s'il est de mauvaise volonté, tu lui pardonnes. Eh bien, ça appartient à l'Ancien Testament. C'est pas les chrétiens. C'est pour ça que le pape dit, hein, c'est tous ceux qui sont des autres religions aussi. Hein. Par contre, là, pour être le levain dans la pâte, pour que ce soit le pardon de Dieu, là, il faut la foi. Et la réponse donc de Jésus, mais si tu as la foi, petit, comme le grain de la moutarde, tu dis à cet arbre-là, arbre de vie, l'Eucharistie, le Christ, immolé, crucifié, déracine-toi, et il va te planter dans la mer, aussitôt, il t'obéira. Ce qui fait basculer la foi de l'Ancien Testament et de la manière de vivre et de donner le pardon dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce qui fait basculer, c'est la foi de Marie qui a dit, voilà, elle dit à l'arbre de la vie, c'est-à-dire à la racine éternelle, la création de toutes choses, le Fils de Dieu, assumant toute possibilité d'amour dans le principe de la création, déracine-toi et va te planter dans le temps, dans les abîmes d'une vie, c'est-à-dire qui ne circule que par le fond des abîmes. Et aussitôt, il s'est incarné. Aussitôt. Et le premier moment, donc, du fiat de Marie, produit par la foi, le premier moment de la volonté éternellement, incréée, divine et éternelle, dans la chair du Christ Jésus, donc dans son union apostatique désirée. Il y a le passage de la foi de Marie, qui fait que aussitôt Dieu, dans son innocence, dans sa puissance d'innocence, obéit à Marie pour ne se planter. Jésus, sur la croix, fait 3 choses. Il demande pardon à la place de ceux qui ne demandent pas pardon, qui ne se repentent pas. Il pardonne. Il reçoit le pardon. C'est pas la même chose. Parce que tu peux très bien pardonner à quelqu'un qui ne se repent pas et qui ne te demande pas le pardon. Ça sert à rien s'il ne reçoit pas ton pardon. Mais Jésus sur la croix, il fut aussi cette opération magnifique. Il reçoit le pardon à la place de ceux qui ne reçoivent pas le pardon. Et si par la foi, même si je refuse de demander pardon, même si je ne veux pas accueillir le pardon, je demande à l'arbre de la vie même petitement déracine-toi du fond d'éternité et va te planter dans la mer, dans l'océan du péché qui est le mien. Il t'obéira. Tu participes, si tu participes pas au mystère de l'absolution, au mystère de l'Immaculée Conception, je veux dire. L'Immaculée Conception, c'est celle qui, dans notre conception, met cet acte de foi possible. C'est possible que dans les secondes qui suivent notre existence dans le péché originel, c'est très possible qu'on puisse faire un acte de foi. D'ailleurs, c'est la doctrine quoi, de la Bible, hein, que aussitôt qu'Adam et Ève ont péché, hein, et bien par la foi, ils ont demandé pardon. Hein. Du moins, ils ont espéré, ils ont supplié, ils ont fait pénitence pour que le Rédempteur du monde vienne dans leur sang, leur descendance. Et l'absolution est venue le jour où l'Immaculée Conception a fait ce fiat, quoi. Ce divin fiat, elle a été créé dans une plénitude de divinité, sa liberté s'est exprimée 9 mois avant sa naissance, librement, humainement, mais dans une plénitude de divinité, dégageant la nature humaine à elle toute seule de tout ce que représente le péché. Là, il suffit de conjoindre l'Immaculée Conception à notre enracinement dans le péché, va te planter dans la mer. Il suffit de se conjoindre, un simple baiser de véritable amour avec elle, et aussitôt, ça y est, on peut demander avec elle l'union hypostatique déchirée de Jésus, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation dans son accomplissement dans tous les temps et dans tous les lieux. Et le lieu du recueillement des 3 pardons, ça peut être que l'Eucharistie. C'est là qu'on voit que Marie, l'Église et nous, c'est tout un. Puisqu'on peut déraciner. Et faire que le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'innocence divine, déchirée se transplante et s'enracinait dans l'océan du temps. Et c'est jusqu'à la fin du monde individuel. On l'oublie beaucoup et souvent ça. Que Jésus est ressuscité, donc il ne souffre plus. Tu vois des gens dire ça. Mais avant de ressusciter, il est sur une union hypostatique des cieux, déjà dans son. Dans l'instant de la foi de Marie, hein. Et là, il a institué l'immolation jusqu'à la fin du monde, dans l'Eucharistie, prenez manger sans plus, en mémoire de moi, dans mon immolation d'incarnation. Et la coupe aussi, hein, et la séparation du corps et de l'âme de Christ sont inscrits dans la présence eucharistique jusqu'à la fin du monde. Et le fait de la résurrection du Seigneur, après, et son ascension à la droite de Dieu le Père, n'ont pas arraché le Christ à la présence réelle. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est important. Après la messe, il y a le tabernacle. Et Jésus est là dans ce tabernacle, dans le tabernacle du monde entier. Dans la bouche des stigmatisés. Ah, sur leur palais. Il est présent. Eucharistiquement. Du monde entier. Il fait une seule palpitation avec sa présence d'immolation pure hein, à la fin du monde. Comme au début des siècles. De l'Eucharistie, c'est ça. Donc il y a qui a transplanté dans cet océan l'arbre de la vie, c'est Marie. Elle est la mère de l'Eucharistie. Et donc elle a, c'est ça qui est étonnant, le Père a envoyé son Fils pour être immolé sur la croix. Et la mère a transplanté, si je puis dire. La glorification de la lumière de gloire, de son âme déchirée, séparée de la croix glorieuse, pour l'arracher précisément à cette œuvre. À cette disposition, pour en faire l'amour pur, propre, éternel de Dieu, et immoler cette immolation nourrissante. Eh bien, il y a certaines confessions chrétiennes qui gardent les sacrements, comme par exemple les orthodoxes. Qui disent, bon, très bien, il y a la synaxe, on célèbre le mémorial. Mais une fois que la messe est finie, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus le Jésus-Hostie, il n'y a plus. Donc quand les gens adorent le Saint-Sacrement, c'est de la papolatrie. Ils ont tort de dire ça. Ils ont tort, ils n'ont pas compris ce que c'était, quoi. Il est monté au ciel, saint Thomas d'Aquin, il dit une chose un peu spéciale, il dit une chose bizarre. Il dit une chose bizarre. Ça, la première fois, quand tu l'entends dans saint Thomas d'Aquin, tu te dis, ça alors? Il dit ça, lui. Quand Jésus a été soulevé par les clous sur la croix, c'était l'ascension. C'est l'ascension, le mystère de l'ascension. Il est soulevé de terre sur la croix. Il est, et disait-il, il est dans la vision béatifique. Donc la résurrection et l'ascension, vous allez dire, sont présents réellement dans le Christ. Or, Marie a fait l'acte de foi pour l'engloutir, cet état d'immolation, dans l'Eucharistie, dans... Elle est la mère de la présence réelle d'immolation nourrissante éternelle de l'Eucharistie. Et on voit aussi des prêtres qui sont très 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 mal formés, très 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 mal, très très bien déformés, qui disent voilà, l'Eucharistie, c'est la présence réelle, oui, de Jésus, mais dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc c'est pas du tout. Luther a raison de nous avoir dit, c'est pas un sacrifice quand même. C'est pas le sacrifice. Cette sacrificationnatrie est insupportable. Mais bien sûr, Luther a apporté une lumière définitive sur l'Eucharistie. C'est un mémorial, c'est tout. Et Jésus est ressuscité. Puis c'est tout, aujourd'hui il ne souffre plus. Il n'est pas immolé, parce qu'il ne se sacrifie pas. Il n'est pas sacrifié. Il n'est pas se sacrifiant. Alors si les luthériens ont apporté de grandes lumières à l'humanité, c'est pas sur ce point-là. Mais ils ont apporté de très grandes lumières à l'humanité, en disant. Mais pas sur les points sur lesquels ils se séparent de Marie et de la foi du Nouveau Testament. Ils ont apporté de très grandes lumières à l'humanité sur les points où ils ne se sont pas séparés. Ils se sont séparés de la succession apostolique. Là, de ce point de vue-là, ils n'ont pas apporté une très grande lumière. Ils sont séparés du côté nourrissant éternel de l'immolation du Christ. Là, ils n'ont pas apporté grande lumière à l'humanité. Alors, ils se sont séparés des sacrements, sauf le baptême. Voilà. Alors, là, ils n'ont pas apporté une grande lumière à l'humanité. Mais ils ont apporté une grande lumière à l'humanité, sans doute, pour l'exigence qu'ils ont de respecter le Christ. On ne dit pas « je suis du Christ » et fait n'importe quoi. Ça, ils ont apporté une grande lumière. Il y a une intégrité quand même. Il y a un souci de vérité, quoi. Je crois au Christ, je suis chrétien, je suis apôtre, tout ce que tu veux. Et puis, j'utilise le Christ pour me faire du pognon. Eh bien non. Souci, quoi. C'est pas de l'argent, c'est pas une bonne réputation. Si on appartient au Christ et qu'on a bonne réputation, c'est très très mauvais signe. Très mauvais signe. Et si je désire être chrétien en disant comme ça, j'aurai bonne réputation, c'est très très mauvais signe. Alors non. Mais si tu es chrétien et que tu es persécuté, et que tu es prêt à donner ta vie et ton sang pour le Christ, et que tu pardonnes, et que tu te ajustes à Jésus-Christ qui demande pardon, et qui te pardonne, et qui pardonne à tous tes frères, voilà, ça c'est la grande lumière qu'ils ont mis en relief, si je puis dire. La Sainte Écriture vient de Dieu. Elle ne peut pas être falsifiée. Il ne faut pas la falsifier. Alors, Marie a dit, voilà, petite graine de moutarde. Petite graine. C'est beau, ça, que Jésus dise ça, petite graine. C'est-à-dire, petite graine, c'est au moment où je la mets dans la terre. C'est l'instant où elle commence. C'est si pareil des cellulaires. Donc il désigne bien Marie dans le premier instant de son Immaculée Conception. C'est net. Petit comme un tout minuscule grain de moutarde. C'est extraordinaire ça. Et du coup. Alors, il faut rejoindre et c'est beau que le pape ait été voir les protestants, aller voir les protestants en Suède. C'est beau ça, de voir ça. Dis ben, les protestants disent quand même, vous dites Immaculée Conception, nous on n'est pas, on n'a pas compris quoi, on n'a pas compris ce truc là. Et ils ne sont pas les seuls, les orthodoxes non plus. Ils refusent. Donc. Il n'y a pas que les protestants. Mais oui, mais si Jésus est sur la croix, qu'il est soulevé, hein, et que son ascension est à l'intérieur de Dieu le Père en entier, substantiellement, éternellement, dès cet instant présent, dans la lumière de gloire de sa croix glorieuse, Sa résurrection l'est aussi, hein? Et du coup, il produit un fruit d'éternité dans la nature humaine. Et l'Immaculée Conception, c'est la preuve que Jésus crucifié, son ascension et sa résurrection, sont présents à l'intérieur de Dieu le Père et du Saint-Esprit, éternellement, avant sa mort, dès qu'il est soulevé, entre sa passion et sa mort sur la croix. Il est soulevé de manière à ce que soit transplanté dans l'éternité du pardon. Et à ce moment-là, sa mort, un coup de lance, donne, et ça c'est saint Augustin qui l'explique, donne forcément l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la preuve que Jésus, au moment où il meurt, est Dieu en personne. Si Jésus n'était pas Dieu en personne, ben il faudrait, au coup par coup, s'approcher de la croix de Jésus, au coup par coup, ça, à chaque fois. Non, son pardon est définitif, il est universel. Et l'Immaculée Conception est le fruit de la croix de Jésus, et la croix de Jésus, c'est cette transplantation, si je puis dire, du pardon et l'absolution dans la vie humaine entière, une création d'un monde nouveau, une absolution. Et cette absolution est transplantée, puisqu'il a fallu que ce soit à l'intérieur du Père et que vienne cette transplantation se fasse avant que le Christ ne s'incarne, jusque dans le temps, avant. Humainement, et toutes les forces de Dieu, tu pardonnes, donne ton pardon, mais voilà, c'est à partir du moment où, c'est par la grâce divine, d'accord, mais c'est seulement à partir du moment où tu as donné le pardon. Mais là, non, c'est avant. Et donné avant ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Jésus crucifié, origine de l'Immaculée Conception, c'est la preuve, la seule preuve, la seule, que Jésus crucifié, c'est Dieu. Alors, j'explique ça à un pasteur. Il dit ça alors, j'y avais jamais pensé. Si tu prends à la fois petit comme petit grain de moutarde, tu dis à cet arbre, transplante-toi dans la mort. En français, c'est encore mieux parce que c'est la maman, c'est en même temps la mère, c'est en même temps l'océan. Et aussitôt que tu te mets dans l'Immaculée Conception, et que tu mets l'Immaculée Conception dans ta conception, et dans la conception de toutes les natures humaines, et que tu vas visiter avec elle toutes les conceptions de toutes les hommes, de tous les temps, tous les hommes qui ont existé, tous les hommes qui existent, tous les hommes qui existeront. Et que de là, âme du purgatoire et les autres, et les saints qui sont au ciel, tu demandes la transplantation, tu réalises l'indivisibilité de l'Immaculée Conception dans la nature humaine entière. Voilà le roi. Dans notre raison, c'est pas très compliqué finalement de se transplanter à l'intérieur de cette Immaculée Conception-là qui émane directement, il n'y a pas le moindre voile entre l'instant où elle est créée et l'instant de ce qu'elle est aujourd'hui, donc même dans la gloire. Donc quand je m'engloutis en elle, j'assiste à Jésus crucifié, elle et moi, nous sommes la même chose. Et lorsque les trois sont en un et que un en trois se réalise comme de cette manière-là en moi, à ce moment-là, ça y est, je suis rentré dans la foi petit comme un grain de moutarde. Mais si je n'ai que un truc, c'est tout, je suis crucifié, Mais séparer l'Immaculée Conception, ou seulement l'Immaculée Conception en n'y comprenant rien, séparer Jésus crucifié et l'Eucharistie, ou si j'ai seulement mon Eucharistie, séparer l'Immaculée Conception et séparer Jésus crucifié, ça fait rien du tout. Il faut trois en un en trois pour que ça fasse un seul Dieu. C'est le chabera de Rabus le chat. Alors je répète tout simplement, l'union hypostatique désirée, transfiguration dans l'immaculé, dès sa conception. Hein. Alors, c'est une spiration, c'est-à-dire une expiration. Tout, plus rien n'existe. Spiration, transpiration spontanée, agréée. Et je remue les trois en moi en répétant ces trois paroles de la foi en une seule acte de foi grand, comme un petit grain de moutarde. Et à ce moment-là, toutes les opérations divines de l'Église peuvent ouvrir le mystère du temps. Voilà le roi. Et on s'y prépare par l'oraison. En mélangeant ainsi les trois en un en trois. Voilà le catéchisme de base. Tout le reste, j'allais dire. C'est intéressant, le reste est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est pas le levain dans la pâte. Voilà ce qu'explique le pape François. Il faut le nard, ce parfum qui émane de l'union hypostatique déchirée dans Saint-Joseph, source de l'Immaculée Conception. Voilà notre Eucharistie jusqu'à la périphérie. Et en même temps, le cœur de tout. Alléluia.